2 minutes, c'est vraiment pas beaucoup, mais je suis vraiment... je me décide à téléphoner parce que j'ai la rage avec ce truc sur Dubaï. Il y en a un qui dit à un moment sur les grandes tours, 100 fois la défense, mais lui, c'est 100% de conneries, quoi. C'est honteux, il n'y a pas de mots, quoi. Je savais même pas que ça existait encore, quoi. Enfin bon, c'est intéressant et j'écoute tous les jours. Enfin bon, ça fait pas très longtemps que je me suis branchée sur France Inter, mais je suis contente et ça fait un peu bouger les choses. Enfin, ça fait bouger dans la tête, quoi. Ça fait peut-être évoluer un peu notre propre sensibilité, etc. Mais Dubaï, non, ça... Oh, Jésus-Marie-Joseph, je savais pas que ça existait. Enfin.
J'ai été particulièrement touchée par les témoignages que j'ai pu entendre des deux jeunes femmes qui, je pense, ne sont pas du tout les seules à vivre ça, et choquée par la différence des mondes entre l'homme qui était en train de nous expliquer que Dubaï était en pleine effervescence et que s'il y avait des pauvres, c'était parce qu'ils dilapidaient leur argent, et elle qui exprimait une souffrance beaucoup plus forte, beaucoup plus vraie, quoi. Elles étaient plus dans une certaine réalité et... bon, bref, c'était très touchant, voilà.
C'est Thomas dans la Loire. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes de cirque, des compagnies de théâtre de rue, des châssiers, des pyrotechniciens, des techniciens, des comiques, des chanteurs qui vont à Dubaï parce qu'il y a de la thune, quoi, il y a des cachets à faire. Et voilà, je me posais la question. Est-ce que artiste, ça veut dire maintenant de faire des cachets à tout prix, ou alors il y a peut-être autre chose derrière. Auquel cas, ce serait pas mal de boycotter, quoi.
Monsieur Mermet, bonjour. Je suis iranienne. Quand j'ai entendu, vous avez dit golf arabe. Golf, c'est pas golf arabe, c'est golf persique, s'il vous plaît. Quand vous dites golf persique.
J'appelais parce que je viens juste d'entendre la jeune femme indienne qui témoignait de la prostitution à Dubaï. Et je voulais savoir, enfin, je voulais simplement dire que j'espérais que vous l'aviez aidée à rentrer chez elle. Je ne sais pas si elle avait besoin d'argent ou j'espère vraiment que vous avez pu l'aider. J'aimerais savoir si vous savez ce qui lui est arrivé par la suite. Voilà, et sinon je voulais dire que j'ai deux petits garçons. J'ai un petit garçon de 4 mois et un autre de 2 ans. Et que je pense que j'aurais quand même réussi quelque chose dans ma vie si mes deux fils ne vont jamais voir de prostituées de leur vie. Voilà, je pense que pour moi, ça voudra dire que j'ai réussi quelque chose dans leur éducation. Excusez-moi, je suis très émue, mais ça m'a vraiment beaucoup émue. Bonne soirée à tous. Au revoir.
C'est une blague que je viens d'inventer, stupide. Qu'est-ce qu'un pauvre à Dubaï? Une mine d'or. Haha.
Oui, bonsoir. Je viens d'écouter les témoignages de ces Indiennes venues chercher du travail à Dubaï. Ils démontrent une fois encore et avec force que là où les hommes sont exploités, les femmes le sont doublement. Car ce n'est pas en fait 51 heures de travail hebdomadaire, mais 135 heures qu'effectuait cette cuisinière qui subissait également des violences physiques. Quant à la jeune femme que l'on prostituait, elle est la preuve criante de cet esclavage que les ignorants qualifient de librement choisi. Exploitée, niée au plus profond d'elle-même par les hommes venus de son pays, victime de ces travailleurs immigrés si prompts à dénoncer leur exploitation, mais les premiers à trouver un peu de réconfort dans l'avilissement des femmes.
Salut Daniel, j'ai écouté ton dernier reportage sur Dubaï avec beaucoup d'attention. Tu sais pas à quel point c'est bouleversant d'entendre ces gens qui souffrent. Et ce monsieur Saïd qui ouvre sa grande gueule en disant que ces gens n'étaient pas obligés de venir à Dubaï pour travailler dans ces conditions, il croit quoi? Est-ce qu'on quitte son pays par plaisir? Ces travailleurs fuient la misère dans leur pays et c'est tout à fait normal et légitime qu'ils se déplacent pour aller chercher une vie meilleure. Tu sais, l'esclavagisme dans ces pays n'est pas interdit par la loi et il n'a jamais été aboli. C'est une pratique très ancienne, même avant l'islam, et très ancrée dans les traditions et les habitudes des peuples arabes de cette région. Puis quand l'islam est arrivé, il a encouragé les riches et les aristocrates à libérer leurs esclaves, sans l'interdire clairement. D'ailleurs, le mu'azzin du prophète, le mu'azzin c'est la personne qui appelle à la prière, il s'appelait Bilal al-Habashi. Il était un esclave noir, originaire d'Al-Habasha, aujourd'hui l'Éthiopie. Il était racheté par le prophète lui-même et libéré juste après. Pour donner le bon exemple, il est devenu parmi les hommes les plus proches de Mahomet. On dit même que Bilal sera un des premiers hommes à aller directement au paradis. Donc ça va de soi. Si ces Arabes de cette partie du monde sont de fervents musulmans, ils appliquent à la lettre ce qui a été écrit dans le Coran. Et le Coran n'a jamais interdit l'esclavagisme. Alors ils pensent que l'exploitation des travailleurs étrangers, ça n'est pas si grave que ça finalement. Parce que c'est pas interdit par le Coran. Du coup, ils ont créé une légitimité divine. D'ailleurs, je vais te raconter une histoire très triste, une histoire personnelle. J'ai un oncle tunisien qui est parti de la Tunisie pour aller travailler en Arabie Saoudite. En fait, il a contacté un intermédiaire tunisien qui lui a permis d'avoir un contrat de travail avec une entreprise de bâtiments saoudienne. Dès son arrivée, on lui a saisi son passeport et on lui a délivré une carte de séjour saoudienne avec la mention « arabe intrus ». Oui, monsieur, là-bas on appelle les travailleurs arabes qui viennent du Maghreb ou du Proche-Orient « arabes intrus ». Et se comporte avec mépris à l'égard des pauvres travailleurs étrangers. Après avoir travaillé pendant 4 ans dans les mêmes conditions que nos amis indiens et bengladais, mon oncle a été obligé de rester sur le territoire saoudien, car son patron lui a obligé de rester. Il lui a même proposé de devenir son goulam, goulam en arabe, c'est-à-dire serviteur et esclave sexuel. Il n'a pas le droit de quitter le territoire saoudien sans l'autorisation de son patron. Il a une femme et 5 enfants. Des histoires comme ça, il y en a plein. Voilà Daniel, c'était Jamel de Toulouse.
Merci, beaucoup de messages hein, sur les reportages d'hier sur Dubaï et la condition des travailleurs venant de l'Inde. À cette auditrice qui nous demande ce qu'est devenue la jeune femme dont on a fait entendre hier le témoignage, je crois qu'on l'entendait dans le reportage, elle a été prise en charge par le consulat de l'Inde et pour être conduite chez elle, mais ça ne veut pas dire pour autant que la politique du gouvernement indien en la matière est tout à fait exempte de critiques. Évidemment, ces déplacements, ces travailleurs migrants permettent au gouvernement de l'Inde de se débarrasser de ses chômeurs, d'une part, et il faut bien dire que les travailleurs, que ce soit à Dubaï, dans les Émirats, ou en règle générale, en Arabie Saoudite, eh bien, envoient chez eux des sommes importantes qui, évidemment, sont favorables à l'Inde. Et d'où une indignation souvent très très mesurée de la part des représentants du gouvernement indien à Dubaï. Et autre chose, pan sur le bec, effectivement, il y a plusieurs messages. Ma langue a fourché, j'ai dit golfe arabique, il fallait comprendre évidemment péninsule arabique, le golfe persique, c'est l'autre côté de Dubaï d'ailleurs. Hein, c'est juste depuis Dubaï, on aperçoit quasiment l'Iran. Voilà, on retourne à Dubaï la semaine prochaine. Là, on va se faire une parenthèse, on va revenir un petit peu en France, vous allez voir pourquoi et comment. On va partir aujourd'hui pour Grenoble.
Bonjour, c'est Samuel de Grenoble. Je vous ai fait un message hier concernant la première manifestation mondiale contre les nanotechnologies et contre l'inauguration de Minatech à Grenoble. Voilà, ça y est, ça a commencé. On est un bon petit millier. Il y a des gens de toute la France, des gens de l'opposition nantaise aux nécrotechnologies, de Strasbourg, de Toulouse, de Paris, même d'Italie. Il y en a des gens qui sont venus de très loin pour cette première manifestation mondiale. Franchement, ça se passe très bien. Il y a plusieurs cordons de CRS qui nous tombaient dessus, parce que là, on se dirige vers Minatech et il y a un énorme dispositif policier qui a été prévu. Demain, Dominique de Villepin devait venir inaugurer, mais il ne viendra pas. Il a encore eu peur de nous, finalement. Et ben voilà, tout se passe très bien et puis voilà, ben on invite tout le monde à venir nous rejoindre parce que demain on sera encore là, les 2 juin, ben voilà, on sera encore là contre Minatech. Ciao.
Salut Daniel, donc salut à tous, c'est Boris de Lyon. Donc là en fait on est à Grenoble et pour manifester contre Minatech, les nanotechnologies à Grenoble. Le centre qui est inauguré aujourd'hui et puis hier il y a une petite manif qui s'est bien passée. Qui a été dispersé violemment par nos forces de l'ordre national. Et ben là, actuellement, on est tous au lieu où on dort. Ça s'appelle la bifurque, c'est très sympa. Mais bon, on est vendredi matin. Depuis 8h30 ce matin, il y a la BAC, la police, qui contrôle systématiquement tout le monde, qui veut entrer ou sortir, qui fouille toutes les voitures, qui fouille toutes les personnes. Il y a déjà plusieurs personnes qui se sont fait embarquer. Et c'est comme ça, je pense, un peu dans toute la ville de Grenoble. Et puis, voilà, c'est bien, nous vivons dans un monde joyeux. Au revoir.
Aujourd'hui, à Grenoble, le technogratin international inaugure Minatech dans une ville en état d'urgence. Et les nécrotechnologies montrent leur vrai visage. Ce qui s'est passé hier dans la rue et ce qui s'y passe aujourd'hui est bel et bien une inauguration, celle du nanomonde sécuritaire où toute protestation est proscrite. Tandis que nos décideurs inaugurent entre eux en buvant du champagne ce centre qu'ils ont décidé entre eux, les opposants sont chassés dans les rues et les riverains cloîtrés dans la zone interdite. Ce matin, à Grenoble, tout rassemblement de plus de 4 personnes était soumis à des contrôles d'identité et parfois même à des fouilles au corps. Et de nombreuses arrestations ont été constatées. Et Samuel, qui a laissé un message sur le répondeur de la Bastille Jésus avant-hier, a été arrêté ce matin avec comme chef d'inculpation incitation à la lutte armée. Voilà. Et comme on l'a dit hier et comme on le redit, on n'avons pas peur des nanotechnologies, mais nous sommes en colère contre le monde que ces technologies sont en train de produire. Voilà, c'était Juliette, membre de l'opposition grenobloise aux nécrotechnologies.
Voilà, vous avez compris, tout a été dit dans les messages, hein, c'est des vraies infos que vous nous envoyez à l'occasion de l'ouverture de Minatech à Grenoble. Minatech, c'est l'inauguration de ce centre où l'on va travailler sur les technologies de l'infiniment petit, sur les nanotechnologies qui semblent et sont présentées par beaucoup, par la majorité, comme une grande avancée, un grand pari. C'est la ville de Grenoble hein, qui parie sur les nanotechnologies, mais ça va pas sans inquiétude, on pourrait s'en douter. Sauf que ces inquiétudes, eh ben, elles ont été balayées. Pour beaucoup de ceux qu'on entend sur ce répondeur, qu'on a entendu dans les rues hier à Grenoble, il y a un problème de débat public, il y a un problème d'information et une opposition s'est dessinée et lutte très très vaillamment contre cette façon, c'est pas forcément contre les nanotechnologies, mais sur le procédé autour d'un vieille histoire, science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme, que chaque innovation technologique, la machine à vapeur, l'électricité, etc., à chaque fois, ont suscité des levées de boucliers, des craintes, des inquiétudes, qui n'étaient pas toutes infondées, il s'en faut de beaucoup, et ces nouvelles technologies, évidemment, suscitent bien des interrogations, bien des questions qui méritent d'être posées. La question, c'est comment on fait ou bien pourquoi on le fait. Disons que les deux camps se sont opposés. Évidemment, c'est un cheval et une alouette. Et devinez où nous étions, évidemment, du côté de l'alouette. Ça va être le reportage aujourd'hui. Après les messages, encore des messages que voici, que vous avez laissés sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
C'est Eric à Gérardmer dans les Vosges. Donc, je téléphone pour vous annoncer un rassemblement contre les lois Sarkozy le vendredi 2 juin à 18h devant la mairie de Remiremont. Donc, dans les Vosges, c'est la ville du président du Sénat, Christian Poncelet. Donc, ce rassemblement est appelé par le collectif de solidarité avec les sans-papiers. Merci. À la prochaine. Au revoir. Félicitations pour vos émissions.
Je suis une élève d'un lycée parisien. Je suis en première et j'appelle parce que on en parlait avec d'autres élèves et on n'en peut plus, on est énervé parce que on est révolté par l'indifférence de nos professeurs. Face à la situation de certains élèves sans papier qui risquent de se faire expulser à la fin de l'année, nos profs, depuis qu'on va à l'école, on nous apprend les valeurs de la République et du civisme. Et là, la seule chose à faire, c'est de se renseigner, voir s'il n'y a pas des élèves qui sont susceptibles de se faire expulser, de les aider, d'apporter un soutien. Il n'y a rien. Il n'y a que quelques élèves qui essayent de faire quelque chose. On essaye de distribuer des tracts. On reçoit des appels de parents d'élèves pour nous dire que ça ne sert à rien ce qu'on fait et qu'on s'y prend très mal. Mais si on s'y prend mal, eh ben, il faut nous soutenir et nous aider. Parce que, voilà.
C'est Elsa, 18 ans, de Chartres, donc où je vis pas, nous a rendu une petite visite. Ce qu'on n'a pas montré à la télé, c'est que la ville, en quelques heures, est devenue une ville de non-droit. Il y a un dangereux phénomène, un flic qui est chef de la police, je pense, qui a braqué la tente d'un militant. Il a été d'ailleurs nommé pendant le mouvement anti-CPE Monsieur Vice en raison de sa violence. Dans Chartres, pour circuler, il fallait avoir sa carte UMP pour avoir des droits aussi. Il y a eu des fouilles, les banderoles interdites, les mégaphones confisqués. Bref, état UMP, état policier.
C'est Florence de Strasbourg. Alors, c'est pour annoncer le prochain repère de la Basse Égypte. Donc, rendez-vous, les amis de la Basse Égypte, samedi 3 juin, 15h, au bar La Hache, rue de l'Ancienne Douane, à Strasbourg. Samedi 15h, au bar La Hache, rue de l'Ancienne Douane, à Strasbourg. On y parlera de l'anniversaire du non, les 1 an du 29 mai. On y évoquera l'union de la gauche, la vraie gauche, celle qui a voté non. Et puis, on parlera aussi de la solidité du réacteur EPR, peut-être. Enfin, il y a beaucoup de sujets en ce moment, brûlants, si j'ose dire. Alors, rendez-vous tous, samedi 3 juin, 15h, au bar La Hache, à Strasbourg. Au revoir.
Jean-François du Finistère, j'ai assisté hier soir à une réunion d'information du Conseil Général sur le développement durable et j'ai relevé une petite perle au cours de cette fabuleuse réunion avec nos libéraux socialistes finistériens qui consisterait à faire des foyers d'hébergement pour jeunes intérimaires à disposition des entreprises agroalimentaires du secteur. Voilà, donc bienvenue dans un monde plus juste et vive le libéral-socialisme. Allez, salut à tous.
Alors c'est pour dire, nous sommes à Poitiers, là, étudiants à Poitiers, et pour dire qu'il y a une grève de la faim qui a débuté avec 80 sans-papiers, qui vivent pour la plupart en France depuis environ 10 ans, qui n'ont toujours pas de papier, pas d'identité, qui travaillent en France, qui ont vécu en France, et là pour l'instant ils en sont à leur 5e jour de grève de la faim. Enfin moi ça me donne envie de gerber un peu là, voir qu'il y a des gens qui crèvent la dalle en France et qui sont toujours pas régularisés, enfin ça me laisse réfléchir.
Bonjour, un petit coucou pour vous dire que le Café Repère de Paris se tiendra 6 rue Sorbier, comme d'habitude, dans le bar bien sympathique Le Lieu Dit, à 14h, de 14 à 16h, samedi 3 juin. Voilà, venez nombreux.
Gérard de Lille, ce petit message pour notre réunion mensuelle qui tombe là le 5 juin, lundi 5 juin, lundi de Pentecôte. Donc, réunion à 20h, au repère les Comtes des Flandres, 51 rue de la Monnaie, à Lille, dans le Vieux-Lille. Donc, venez nombreux, profitez de ce jour du lundi de Pentecôte, et à bientôt. Au revoir.
Je désire manifester l'envie de créer un repère de là-bas si j'y suis, donc pour les gens de Vienne dans l'Isère. Alors, eh bien, écoutez, les amis qui sont intéressés, laissez vos messages sur le répondeur. J'espère qu'ils seront diffusés et puis nous pourrons nous mettre en contact afin d'aller dans cette création-là. Voilà, je vous remercie et à bientôt.
Face aux technologies convergentes, face à l'électronique, face aux biotechnologies, face aux technologies convergentes, on propose la convergence des luttes et on remercie toutes les personnes qui sont venues de plein de coins de France. De plein de gens qui luttent contre les OGM, contre les centrales nucléaires qui sont près de chez eux. Nous leur remercions d'être venus nous rejoindre pour cette première manifestation mondiale contre les nanotechnologies.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Antoine Chao, nécro ou nano.
Flight number 2, arriving from New York.
Il est 8h, Grenoble s'éveille. Le Dauphiné libéré, mardi 30 mai 2006, à Grenoble, le pôle européen Minatech géant des nanos accueille ses premiers occupants. Gare au dérapage. Tout ce qui est nano-petit n'est pas forcément une panacée. Et sur les 8,6 milliards de dollars qui ont été consacrés dans le monde en 2004 à la recherche et au développement des nanotechnologies, une bonne part leur a été grâce à des budgets militaires. On prêtera donc plus d'une oreille aux détracteurs des nanotechnologies fédérés contre Minatech en région grenobloise par PMO, pièces et main-d'œuvre, et le collectif OGN, opposition grenobloise aux nécrotechnologies, qui décrivent volontiers ce que seraient les giga-cauchemars du futur dus à des nanomètres dénués de raison.
On l'a compris. On a déjà compris. Ils sont contre. Ils sont contre. Ils rejettent toute science, tout progrès, toute technologie. Ils sont obscurantistes. Ils critiquent le progrès technique. Mais quand même, l'espérance de vie ne fait qu'augmenter. Certes, tout progrès technique a des effets secondaires. Mais pour les compenser, l'humanité a toujours inventé de nouvelles solutions techniques. Et de toute façon, si c'est pas nous qui développons les OGM ou les nanotechnologies, d'autres le feront. Vous critiquez la technoscience, mais vous utilisez les ordinateurs et Internet. Vous êtes contre le progrès technique, donc contre le développement économique, donc contre l'emploi. Les gens sont libres de décider par eux-mêmes. Le succès des gadgets technologiques est la preuve que c'est ce que les gens désirent. Vous ne respectez pas les décisions des élus. Vous êtes antidémocratique. De toute façon, on ne peut rien y faire. Eh bien, ces arguments que je viens d'accumuler là à toute vitesse, ils y répondent. Ils y répondent non seulement à travers une petite brochure que j'ai sous les yeux qui s'appelle « Les argumentocs » et qui sont édités par les renseignements généreux. Ils y répondent. Ils y répondent. Qui c'est ? Ben, c'est PMO et OGN, pièces et main-d'œuvre et opposition grenobloise au nécrologie, aux nanotechnologies. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les enjeux? Franchement, on va bien dire les choses, c'est des domaines auxquels, personnellement, je ne comprends rien, je n'y connais rien, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un spécialiste des nanotechnologies, et on ne va pas faire semblant. Et je crois que je ne suis pas le seul. Alors, n'étant pas le seul, quand on ne sait rien, à qui faire confiance? Eh bien, au débat public, voilà. On fait confiance à... Or, ce débat public n'a pas eu lieu. C'est d'au moins la conviction profonde des gens de PMO et d'OGN et de beaucoup d'autres, non seulement à travers la France, mais à travers le monde face à ces nouvelles technologies. Voilà pourquoi Antoine Chao a foncé à Grenoble pour essayer de nous donner quelques échos et nous faire comprendre un peu ce qui se passe et ce qui se joue là-bas.
Première manifestation anti-nanotechnologie organisée en France. Elle a réuni environ 800 personnes dans les rues de Grenoble aujourd'hui. Grenoble en pointe sur ce débat de société à la veille de l'inauguration de Minatech.
Je souhaite qu'on ferme ces industries. Je ne veux pas de passeport biométrique et je ne veux pas de puce dans ma peau. Je ne veux pas que le fermier qui habite à côté de chez moi soit obligé de pucer les brebis et les chèvres. Je ne veux pas, je veux qu'on enlève les puces qui ont déjà été mises dans les chevaux. Je ne veux pas de RFID dans mon yaourt. Je ne veux pas de ce monde-là. Qu'on ferme les supermarchés.
Après les OGM et le nucléaire, les nanotechnologies ont trouvé leurs opposants, ce sont d'ailleurs parfois les mêmes.
Le réseau Sortir du Nucléaire a souhaité participer à cette mobilisation pour justement parler à cause des analogies qu'il y a entre le nucléaire et le Minatec, c'est-à-dire les dangers pour la santé, pour l'environnement et puis la policiarisation de la société.
En fin de manifestation, des incidents ont opposé police et manifestants avec des tirs de grenades lacrymogènes. Une jeune femme a été blessée au visage.
Elle s'est reçue un bout de grenade à défragmentation sur le visage. Elle a un bout de lèvre qui pend et sûrement un bout de menton bien abîmé.
La police a reconnu qu'une femme avait été blessée. Au total, deux personnes ont été interpellées et la vitrine d'une banque a été endommagée.
Et Minatec, c'est dans le centre
Minatec, c'est à côté de la gare. Ça joue juste le commissariat d'énergie atomique.
D'accord, donc ils ont réussi à implanter ça au milieu de l'agglomération.
Ah,
complètement.
Ah oui, c'est vraiment à pied, c'est à 10 minutes de la gare de Grenoble, quoi.
D'accord.
Avant, c'était une partie du commissariat d'énergie atomique, il me semble.
Oui, donc on va aller jusque là-bas. Donc la manif, elle démarre, c'est ça.
La manif, elle va démarrer au centre-ville de Grenoble, à midi. Ouais, ouais. On va d'abord sillonner un peu les rues pour rencontrer les gens, discuter, montrer notre présence. Et après, le but, c'est de rejoindre le cours Beria qui va vers Minatec. Sachant qu'on s'attend à être bloqué assez rapidement par les cordons CRS. Et on ira le plus loin possible, quoi. Et l'objectif ensuite, si on arrive à être prêt à Minatec, c'est faire de la veille technologique.
Voilà, importante manifestation, double manifestation, l'inauguration de ce centre très important, Minatec, consacré aux nanotechnologies, et puis, vous avez compris, contre cette inauguration, à cause de l'absence de débat public, à cause de l'absence de précautions, face à des quantités de questions que posent ces nouvelles technologies, face aux modes de financement, aux enjeux de toutes sortes, eh bien, on va essayer de comprendre. Je vous dis pas qu'à la fin, à 18h, vous aurez tout compris, mais nous espérons, avec Antoine, Jao, que vous serez un peu plus sensibilisés, comme nous-mêmes, à ce qui se passe là-bas. Donc, on est avec, vous avez compris, ceux qui vont manifester. On est jeudi, hier, dans la matinée, et on est avec Samuel, qui nous explique tout.
Là, ce matin, on a appris dans le journal local Dauphiné Libéré que toutes les personnes résidentes près de Minatec devront monter un justificatif de domicile et une carte d'identité pour se rendre chez eux, tellement le quartier va être bouclé par les CRS.
Tu peux te présenter ou pas, ou tu veux rester anonyme?
Ouais. Je suis Samuel, de Grenoble, et je fais partie de l'opposition grenobloise aux nécrotechnologies.
Un tram passe.
Alors moi, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai exercé ce métier-là dans une grande multinationale. Et... au bout de plusieurs années de travail, j'en avais vraiment marre de dissocier sans arrêt ma conscience professionnelle de ma conscience morale. C'est-à-dire que je sentais vraiment une vraie dissonance, en médecin psychologie sociale, une dissonance entre ce qu'on me demandait de faire dans mon travail et puis mes idéaux politiques, qui sont plutôt tournés vers l'égalité politique, vers l'écologie et vers les principes démocratiques. Donc j'ai décidé en fait de démissionner et de me tourner vers une vie avec beaucoup moins d'argent, mais en tout cas beaucoup plus d'amis, et beaucoup plus de préoccupations politiques. Et donc voilà, depuis quelques temps, quelques années, je gravite dans le milieu des opposants à la course high-tech notamment, mais pas que sur le milieu-là. Et là, ce qui m'intéressait beaucoup dans la démarche de l'opposition grenobloise aux nécrotechnologies, c'était de rassembler un maximum de personnes préoccupées par ces questions-là, sur des bases les plus larges possibles, sachant qu'on n'a pas tous les mêmes idées politiques, pas tous la même philosophie, etc. Mais on s'est dit, on va faire quelque chose ensemble. On va se réunir pour avoir plus de force. Et pendant 6 mois, on va faire un travail ensemble. Avec toutes les difficultés que ça pose, mais aussi toute la force que ça pose. Parce qu'actuellement, il faut bien voir qu'on est parti OGN, quoi. Ça représente 40 personnes, en élargie 60 personnes. Hier soir, la réunion publique qu'on a organisée à Grenoble sur la nanotechnologie, il y avait 400 personnes. Sur une ville comme Grenoble, c'est énorme. Un meeting de 400 personnes sur des thèmes aussi pointus et aussi contestataires. Et il y a des gens de toute la France qui nous ont rejoints. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui montre la force de l'action collective. Et donc voilà pourquoi j'ai rejoint l'opposition grenobloise de nécrotechnologie. Oui. En fait, rapidement, un Minatec est piloté par le commissaire à l'énergie atomique de Grenoble et l'INPG, qui est l'Institut National Polytechnique de Grenoble, qui rassemble en fait 9 écoles d'ingénieurs de Grenoble. Voilà, donc moi j'ai fait une de ces écoles d'ingénieurs-là. Donc je connais bien l'intérieur aussi du milieu... scientifique, on va dire.
Et donc tout ça sous l'impulsion du CEA qui s'est installé ici, donc il y a plus de 50 ans, hein, a fêté ses 50 ans à Grenoble.
Tout à fait, le CEA a été créé en 1956
le commissaire de l'énergie atomique de Grenoble, hein, le CA de Grenoble, avait au départ une vocation plus sur l'électromagnétisme et l'électronique, avec bien sûr une composante nucléaire très importante. Et actuellement, c'est le CEA qui a imaginé le projet Minatec. Donc c'est eux qui sont les moteurs de ce projet-là. C'est eux qui ont proposé ça au pouvoir public, qui sont empressés évidemment de financer, puisque Minatec coûte 190 millions d'euros, mais financé à 75% par des fonds publics. Pour la petite histoire, le maire de Grenoble, Michel Destot, est un ancien ingénieur du CEA, comme l'était Hubert Dubedoux, le maire qui était avant Carignan, et pendant presque 20 ans. Donc le CEA a toujours une très grande emprise politique sur les institutions locales. Donc c'est le CEA qui imaginait ce projet-là. Les pouvoirs publics ont évidemment suivi. Et pour le CEA, ça représente aussi, comment dire, sa conversion. Il passe en fait du nucléaire aux nanobiotechnologies. Et le CEA de Grenoble est vraiment le modèle en ce domaine-là. C'est-à-dire, on met un peu de côté le nucléaire et on se lance dans les nouvelles technologies qui sont porteurs d'énormément de choses en termes de puissance militaire, puissance policière et nouveaux profits industriels.
Bah c'est ça la question, c'est qu'il y a vraiment un souci de transfert vers l'industrie rapide, quoi, efficace et...
Ça c'est la logique actuellement de la recherche publique, hein. On voit d'ailleurs au niveau du commissariat à l'énergie atomique, les fonds pour la recherche militaire augmentent, ça c'est sûr, mais les fonds pour la recherche, on va dire, plus civile ou industrielle, de plus en plus on demande aux institutions de recherche publique de faire des contrats avec des industries, donc on enlève les financements étatiques, et les laboratoires doivent, pour avoir des financements, faire des contrats avec des industries. Et typiquement, le CEA de Grenoble, c'est on appelle même le modèle grenoblois, tellement il y a au sein de Grenoble une culture de faire des liens entre la recherche publique, l'industrie, l'armée et l'université. Mais vraiment, on parle même de modèle grenoblois dans les ouvrages spécialisés sur les technopoles.
Bon, on se dit, d'accord, ingénieur, compétence, sincérité, on comprend très bien ce jeune homme déchiré entre sa conscience professionnelle et sa conscience morale qui finit par lâcher son boulot et puis par s'engager, ne plus supporter cette situation. Très bien, et voilà, c'est des gens sympathiques, mais enfin, voilà, on n'arrête pas le progrès, la nanotechnologie avance, etc. Imaginez simplement, je ne sais pas quand l'usage de l'amiante a été introduit, mais ça aurait peut-être été pas mal qu'on ait des gens pour mettre en doute c'est l'usage d'un tel produit. Et on peut se demander aujourd'hui, en effet, si toutes les précautions ont été prises. Or, dans le cadre des nanotechnologies, des questions se posent sur la protection des travailleurs. Les travailleurs pourraient développer des fibroses pulmonaires. C'est un risque qui est évoqué. Mais un principe comme celui-là, même... adossé à la Constitution française, doit pas peser bien lourd face aux retombées économiques de ce domaine. En 2010-2015, les enjeux économiques liés à l'avènement des nanotechnologies au niveau mondial devraient atteindre 1000 milliards d'euros par an et concerner l'emploi de près de 2 millions de personnes. C'est le gâteau et la cerise.
Actuellement, à travers l'opposition grenobloise aux nécrotechnologies, l'idée c'était aussi de fédérer un maximum de lutte, de tisser des passerelles avec d'autres groupes, parce qu'il y a pas mal d'autres groupes qui se bougent par rapport à... Par exemple, ici, il y a des gens qui étaient à ZF, à Toulouse, qui nous ont rejoints pour nous aider, et nous, on ira les aider quand ils auront besoin de nous. Il y a des gens qui luttent contre les OGM dans le Tarn ou dans l'Ariège. Ben, ils sont venus aussi ici, et ils expliquent ce qui se passe chez eux. En fait, face aux technologies convergentes, puisque les nanotechnologies, on appelle ça aussi les technologies convergentes, puisque manipuler les atomes, on applique ça à plein d'autres sciences, à l'électronique, etc. Donc on appelle ça les technologies convergentes. Face aux technologies convergentes, on essaye de faire la convergence des luttes. L'idée, c'est de tisser des passerelles entre les oppositions aux technopoles, entre les oppositions à cette course au high-tech qui néglige ses conséquences sociales, écologiques et sanitaires.
Alors j'imagine qu'on vous traite de passéiste, hein, de technophobe, etc.
Alors on a même fait en fait une brochure qui s'appelle les arguments TOC. On a listé tous les lieux communs qu'on nous balance sans arrêt à la figure. Par exemple, vous êtes obscurantiste, vous rejetez toute la science. Alors que c'est pas vrai, on est évidemment pour une science, mais pas pour une science au service des intérêts industriels, des multinationales, et pas une science au service des militaires. On est pour une science au service du bien commun, qui se pose des questions de recherche sur le modèle social, sur le bien-être et la liberté des populations. Alors on nous dit aussi, vous êtes contre la nanotechnologie, c'est-à-dire que vous êtes contre la médecine alors. Ça c'est aussi une tarte à la crème. On n'est évidemment pas contre la guérison des cancers. Et effectivement, les nanotechnologies, a priori, offrent des perspectives pas inintéressantes en termes de lutte contre les cancers. Il faut bien voir que ça, c'est, on va dire, le petit pourcentage éthique qui fait accepter le gros gâteau militaire. C'est-à-dire que on dit oui, mais regardez, Minatec, ça va être pour lutter contre les cancers.
Très bien, mais si vraiment on veut lutter contre les cancers, alors déjà on fait un centre que de médecine. Et puis deuxièmement, on peut quand même se poser la question de tout ce qui dans l'environnement crée les cancers. Grenoble est quand même une ville qui est hyper polluée en termes de sol, en termes d'eau, en termes de pollution atmosphérique. Et là, tiens, ça c'est pas très préoccupant. Donc vraiment, on nous balance sans arrêt le fait qu'on soit contre le bien commun par les mêmes promoteurs de la destruction du milieu de vie environnant, quoi. Alors d'abord, le terme nanotechnologie, ça désigne des technologies qui permettent de manipuler la matière à l'échelle du nanomètre, c'est-à-dire du milliardième de mètre, c'est-à-dire en fait à l'échelle de l'atome. C'est-à-dire manipuler les atomes. Et manipuler les atomes, ça ouvre des perspectives inimaginables, incroyables, en termes de, dans le domaine de l'électronique, de la biotechnologie, de la science des matériaux, avec tout un tas de nouvelles applications possibles, sur le plan médical, policier, militaire, électronique, gadget. Ça, c'est le terme nanotechnologie. Et donc, à Grenoble, va être inauguré Minatec, qui est le plus grand centre européen en micro et nanotechnologie. Il y en aura trois dans le monde. Un aux États-Unis, dans la vallée de Santa Clara, la Silicon Valley. Un au Japon. Et un en Europe, à Grenoble. C'est un énorme centre. Hein. Il y aura environ 4000 personnes. Deux écoles d'ingénieurs, des laboratoires. Un centre de transfert de la recherche vers l'industrie. Un centre de communication avec des dispositifs d'acceptabilité. Comment faire accepter les nouveautés développées par Minatec. L'IDIS Lab.
L'IDIS Lab, ouais.
L'IDIS Lab. On appelle ça aussi la sociologie des usages, c'est-à-dire on crée des nouveaux besoins, comment les faire accepter. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Minatec? Minatec, au départ, ça nous est présenté comme un projet civil, de recherche civile. Et puis Michel Alliomarie est venu en mars visiter Minatec, le chantier. Et là, elle a fait un peu briser le mythe autour de ses recherches civiles, en montrant bien que Minatec, c'était aussi un centre militaire, qui intéressait au plus haut point l'armée, à tel point que la délégation générale de l'armement a signé un contrat avec Minatec, qui donne un droit de préemption de la DGA, de la Direction Générale de l'Armement, sur les découvertes de Minatec, et sur le choix des recherches et des thèses. D'ailleurs, donc Michel Alliomarie, à l'occasion de sa venue, a dit que la recherche civile, la recherche militaire, de toute façon, c'était de plus en plus imbriqué, et que Minatec, c'était notamment très important par rapport au... si la France voulait garder son statut à la pointe des exportations d'armement, etc., quoi. Nanotechnologie en termes d'armement, ça ouvre des perspectives incroyables. En termes de robots de combat, en termes d'exocuirasses pour les fantassins, en termes de capteurs, en termes d'obus, ce qu'on appelle les obus intelligents, c'est-à-dire les missiles guidés, et en termes de miniaturisation de tous les procédés militaires. L'idée, c'était pas seulement de se poser à Minatec, mais à travers notre action, poser la question du progrès technique en général, et dans quelle mesure le progrès technique qu'on nous propose est-il un progrès social. Et ce qu'on appelle nécrotechnologie, c'est un plagiat en fait de Jean-Pierre Berland, le chercheur à l'INRA qui a écrit pas mal de bouquins sur, par rapport aux OGM. Nécrotechnologie, c'est quoi? C'est le nucléaire, c'est les OGM, c'est les nanotechnologies. En fait, c'est à chaque fois que la science est au service des militaires et des multinationales. Donc nécrotechnologie, c'est une science qui pose toujours la question du comment, j'aime la question du pourquoi. Et donc là, on se met dans la droite lignée de Jacques Ellul, qui disait que faut vraiment se poser la question du pourquoi, mais se poser la question du comment, concernant notre société, qui face à des problèmes comme la faim dans le monde, les cancers, etc. On va pas dire, peut-être qu'il faut se poser des questions importantes sur le modèle économique, le modèle social que vous avez proposé, mais non, on va faire de nouvelles technologies qui vont permettre, soi-disant, de résoudre les cancers, soi-disant, de résoudre la faim dans le monde, sachant qu'on ne parle jamais dans la propagande officielle du côté... on va dire la face cachée des nanotechnologies, la face cachée des OGM, on en parle très très peu.
Voilà, critique des nanotechnologies à l'occasion de l'ouverture du pôle Minatec à Grenoble. Samuel, le porte-parole d'un des collectifs qui critiquent et qui veulent ouvrir la question des nanotechnologies au débat public et amener toutes ces questions très préoccupantes sur la place publique.
En l'occurrence, l'opposition grenobloise des nécrotechnologies, c'est un CDD, c'est un collectif à durée déterminée qui rassemble plein de personnes qui ont décidé, à l'occasion de cet événement de l'inauguration de Minatec, d'organiser des contre-événements, donc une manifestation, tout un tas de soirées publiques, etc. Mais aussi d'aller dans toute la France, faire des réunions publiques, qui rassemblent parfois 10 personnes, parfois on a eu 150 personnes, mais bref, le nombre importe peu, au total on a touché environ 2000 personnes, ceci dit. Et de poser la question, de réfléchir sur la course au high-tech actuelle, le progrès technique est-il un progrès social, discuter avec les gens, partir en compte. On a fait une cinquantaine de réunions publiques. Donc nous, l'idée, c'est de pas seulement se focaliser sur les nouvelles technologies, mais poser la question aussi plus généralement sur la course au high-tech, la course au progrès technique et le modèle social qui va avec. Et il y a aussi, à Grenoble, depuis plusieurs années, on va dire, il y a un collectif qui s'appelle Pièces et Main-d'œuvre, qui fait un travail qu'on pourrait appeler un travail journalistique, même si eux-mêmes ne se revendiquent pas forcément journalisme, en tout cas un travail de veille sur toute la presse locale et nationale, sur toutes les plaquettes publicitaires des entreprises, etc., sur les conséquences sociales de la biométrie, sur les nanotechnologies, sur les conséquences de la course au high-tech sur l'urbanisation de la ville de Grenoble, la pollution écologique liée aux industries électroniques, etc. Tout un tas d'enquêtes qui ont déjà quand même brassé pas mal le milieu grenoblois. Il y a eu aussi d'autres groupes qui ont fait des actions, on va dire, plutôt des plagiats. Par exemple, en 2004, a été diffusé à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires un faux métroscope. Le métroscope, c'est le journal, le mensuel de la métro, qui est la communauté de communes de l'agglomération grenobloise, qui soutient à fond la course au high-tech à Grenoble. Ça fait un bon scandale à Grenoble. En 2004 aussi, le chantier Minatech était occupé. Une grue a été occupée par des personnes. Il y avait plein d'opposants qui distribuaient des tracts aussi. Toute la ville était au courant. En juin 2005, a été aussi diffusé Libertis. Libertis, c'est une fausse publicité du Conseil Général de l'Isère, qui est aussi d'ailleurs le maître d'œuvre du projet Minatech. Et Libertis, c'était la carte d'identité universelle. C'est-à-dire que c'est une carte qui faisait à la fois carte d'identité, carte bancaire, forfait de ski, carte de bus, carte de sécurité sociale, avec une option implant sous-cutané. Et cette publicité s'inspirait en fait de projets bien réels, notamment les puces sous-cutanées qui sont déjà commercialisées aux États-Unis et qui regroupent tout un tas d'informations sur l'individu, une localisation GPS, etc. L'idée, c'était ce que cherchaient en fait les gens qui ont diffusé cette fausse publicité, c'est de créer un peu une onde de choc dans la population grenobloise, poser la question des conséquences policières des nanotechnologies, de la microtechnologie. Là aussi, ça a été un sacré scandale, puisque ça a aussi été diffusé à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires dans les boîtes aux lettres des Grenoblois. Et là, récemment, a été diffusé à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires à Lyon, à Chambéry. Attention. Donc, a été diffusé à Chambéry, à Lyon, à Genève, à Grenoble, plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Une fausse publicité du commissaire à l'énergie atomique pour le projet Tunelis. Tunelis, ça serait un immense dôme qui irait de Lyon à Genève. Et en fait, c'est pour plagier, semble-t-il, le projet de Sillon Alpin, qui est le nouveau projet du techno-gratin de la région Rhône-Alpes, projet d'urbanisation fou, que les conseils généraux de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Drôme et le canton de Genève commencent déjà à planifier. Ce qui est assez incroyable, ce sont des pastiches qui sont vraiment très fidèles, très bien faits, très bien mis en page et diffusés à des dizaines de milliers d'exemplaires. Ça demande quand même une organisation assez importante.
Parce que c'est ça, donc, l'idée d'OGN et de PMO, c'est de mener sur le terrain public un peu toute cette réflexion sur le rôle des sciences, sur le...
Nous, on fait ce que les pouvoirs publics ne font pas, c'est-à-dire on va débattre, on va discuter, on va parler de toutes les conséquences et de toutes les informations qu'on a sur la nanotechnologie, sur la nécrotechnologie en général, et discuter avec les gens. Est-ce que c'est ce modèle-là qu'on veut?
Alors voilà la manif, ça a été un petit peu dur hein, quand même, hier à Grenoble, il y a eu des tirs, des histoires, des arrestations, etc. Enfin bon, voilà, mais on va mettre ça de côté, ce qui nous intéresse, nous, c'est de comprendre. Alors là, on était avec un des groupes, OGN, on a parlé d'un autre qui s'appelle PMO, c'est-à-dire pièces et main d'œuvre, PMO, pièces et main d'œuvre, et sous cette appellation, des citoyens anonymes, depuis pas mal de temps déjà, conteste le développement des bio et des nanotechnologies dans Grenoble, dans l'agglomération de Grenoble. Et évidemment, c'est le combat de David contre Goliath. D'un côté, la technopole grenobloise, la recherche de pointe, les industries avancées, les collectivités territoriales très engagées dans le développement local. Et de l'autre, une poignée de contestataires anonymes, réunis donc sous l'appellation de pièces et main d'œuvre, en abrégé PMO. Entre David et Goliath, vous savez toujours de quel côté nous nous trouvons.
ce qu'il faudrait que tout le monde comprenne, c'est que au minimum depuis 1945, on ne peut plus s'émerveiller de la science. C'est-à-dire que il y a eu là une expérience scientifique en grandeur nature qui s'appelle Hiroshima et qui a été le modèle scientifico-industriel de ce que les Américains ont nommé la Big Science. Et la Big Science, ça marche par grands projets pour lesquels on réunit des task forces qui réunissent des laboratoires, qui réunissent des industriels, qui réunissent éventuellement l'armée, qui réunissent des crédits massifs. Et évidemment, quand on engage ces moyens-là, c'est pas pour faire de la science désintéressée, c'est pas pour la connaissance pure. C'est parce qu'on en attend des résultats concrets, des résultats profitables ou des résultats de puissance industrielle et militaire. Et ça, ça a été parfaitement pensé et planifié par un gars qui s'appelait Vannevar Bush, qui était le conseiller scientifique de Harry Truman et qui est le père fondateur de la NSF, la National Science Foundation. Et depuis, la science américaine marche à coups de plans comme ça. Après, il y a eu le plan, le projet Apollo. Bon, et maintenant, le dernier rejeton de la NSF, c'est la National Initiative on Nanotechnology, bon, qui est clairement définie comme le moyen scientifico-technico-industriel de redonner en gros 10 ans d'avance aux États-Unis et de revenir au temps béni des années 50 où il régnait sans crainte et sans partage sur la planète.
Et à Grenoble, on a à une échelle plus réduite, mais on a en fait le même dispositif qui se recrée, c'est-à-dire que la liaison recherche, armée, industrie, élus, pouvoirs locaux, c'est ça qui fait le développement de la cuvette grenobloise depuis des années. Et c'est aussi ça qu'on a voulu démonter quand on dit qu'on a démonté le laboratoire, c'était d'essayer d'expliquer les modes de décision et le fait que ici, par exemple, beaucoup d'élus sont eux-mêmes issus des laboratoires et que, comme ils le disent eux-mêmes, ça nous évite de nous poser des questions métaphysiques. C'est eux-mêmes qui disent ça. Il y a comme ça ce qu'on a appelé le technogratin, en gros, on peut dire, allez, 150-200 personnes, donc des chefs de labo, des patrons d'entreprises, de start-up, les élus, la CCI, la chambre de commerce, et ces gens-là décident pour les habitants de la cuvette, c'est eux qui décident en fait voilà, dans quel sens on va, c'est eux qui ont décidé de mettre 193 millions d'euros dans Minatech, de faire de Grenoble la capitale européenne des nanotechnologies, Et en même temps d'entraîner toute la région dans ce modèle de développement qui est extrêmement destructeur. Et les Grenoblois le voient dans leur quotidien. Le prix des loyers explose, parce que comme on fait venir des ingénieurs américains avec des exigences de mode de vie, etc., ça fait monter le prix de l'immobilier. Donc les gens peuvent plus se loger dans la ville, ils sont obligés de partir. Il y a autour de ça les infrastructures, l'urbanisation, tout va autour avec. Et finalement, on est en train de fabriquer ce fameux sillon alpin. Donc ça, c'est pas quelque chose d'abstrait. Les élus ont pour projet de créer une conurbation urbaine, c'est-à-dire une seule ville, de Genève à Valence. En 2020, c'est-à-dire que sans jamais avoir consulté la population sur ce projet-là, ils sont en train de se donner les moyens de faire une ville de 220 km de long.
On vous reproche beaucoup d'être anonyme. Alors là, je vous ai vu dans la manif. Vous n'avez pas les cagoules du commandant Marcos. Donc je pense que les gens vous connaissent dans la presse locale, etc. Donc quel est donc ce rapport que vous avez avec la presse locale?
Évidemment, tout le monde ici connaît les noms des gens de PMO. Enfin, je veux dire, c'est un secret de polichinelle. Nous, ça a été délibéré de refuser d'afficher nos identités parce qu'il y a tellement de gens qui veulent se faire un nom, et ça faisait partie de toutes les petites ruptures. Hein. Bon, on n'est pas des dissidents russes. Bon, mais ça faisait partie de toutes les petites ruptures qu'on voulait opérer, de dire bah non, nous on n'est pas là pour bâtir notre notoriété. Hein. C'est pas ça qui est en jeu. C'est on refuse de devenir des vedettes sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que traditionnellement, il y a trois types d'autorités. Hein. Il y a l'autorité politique, il y a l'autorité scientifique qui est compétente, et il y a l'autorité médiatique, les gens qui tiennent le micro, qui ont le droit de parler. Bon, et nous, on a voulu passer de l'autre côté, des gens qui n'avaient aucune autorité. On écrit des textes, c'est notre activité principale, on source tout ce qu'on dit, jugez-nous sur pièce, et non pas sur la signature. C'était ça la question de l'anonymat. Et effectivement, quand on nous reproche l'anonymat, ça hurlait de rire, puisque les gens qui nous reprochent l'anonymat nous connaissent parfaitement, et ils nous parlent. C'est une petite ville, Grenoble.
En même temps, j'ai l'impression qu'il y a un vrai respect du monde scientifique, cette fois, je parle pas scientiste, non, de votre travail, qui dénonce un peu les dérives. Alors peut-être qu'on peut aussi citer les deux, trois dérives là qui arrivent vraiment, donc le flicage par les cartes, les RFID, etc.
Oui, alors c'est vrai que les nanotechnologies, on est tombé dessus presque par hasard, hein, puisqu'on s'occupait de notre ville et que c'est là que ça se passait. Donc finalement, on a mis le nez dessus comme ça, parce que c'était sous nos fenêtres. Et ce qu'on a découvert, oui, il y avait de quoi nous mettre vraiment en colère. Contrairement à ce que disent les élus et les scientifiques, on n'a pas peur. On n'a pas peur, on est en colère, vraiment. Parce que les nanotechnologies, c'est un monde sous contrôle électronique. C'est-à-dire que là, en ce moment, sortent des laboratoires des puces microscopiques, voire bientôt nanoscopiques, qui ont des capacités de communiquer leurs informations à distance, par exemple. Et donc, l'idée, c'est de les mettre partout. Donc, dans les objets qu'on achète, dans nos papiers d'identité, hein, les passeports biométriques électroniques, c'est une puce sans contact, ce qu'on appelle sans contact. Déjà, on puce les animaux, les chevaux, les chiens, les chats, etc. Et puis, il y a des gens qui se font pucer. On met des puces sous la peau des gens. Et donc, tout ça, c'est un monde où on est en permanence tracé, pistable, repérable, et on sait tout ce qu'on a fait, où on est passé, avec qui on est. La manif d'aujourd'hui, par exemple, si on avait eu nos papiers d'identité RFID, donc ça s'appelle comme ça, bah, il suffisait effectivement au RG de passer dans la manif avec un sac à dos et un lecteur, et puis il enregistrait les identités de tous les gens qui étaient là. Et ça, c'est ce qui se prépare. C'est un marché énorme pour les industriels, et à Grenoble, il y a beaucoup de boîtes qui bossent là-dedans. Ils font du lobbying à fond en disant c'est ça le prochain marché, après le téléphone portable c'est vive la RFID. Donc ça, c'est une des choses que nous on dénonce, c'est le fait de vivre dans un monde
de la
traçabilité et sous contrôle électronique. Voilà. Bon, après il y a des choses plus vaste encore. Dans le projet des nanotechnologies, il y a ce projet de faire un homme-machine qui vit dans un monde machine, hein, avec les implants très perfectionnés qu'on met dans le corps humain, voire dans le cerveau. On va vous rajouter de la mémoire comme un ordinateur. Il y a une forme de derrière ça, il y a une vision extrêmement mécaniste qui est de considérer l'humain, le vivant, les rapports sociaux, la nature comme une machine. Donc si on est une machine, ben oui, on peut. Après tout, on peut, comme l'ordinateur, on augmente ses capacités en ajoutant des implants. Bon, ça, c'est aussi des choses qui sont très sérieusement étudiées. Et on pense, nous, que contrairement à ce qui est souvent dit, c'est-à-dire que ça va pas augmenter l'homme, mais ça va le diminuer et probablement fabriquer des hommes robots qui seront très facilement manipulables. Donc évidemment, l'armée est intéressée au premier chef par les nanos. Michel Alliomari est venu au mois de mars à Grenoble rappeler tout l'intérêt de l'armée pour ses recherches. Donc bon, c'était assez drôle puisque nous, ça fait des années qu'on le dit et des années qu'on nous dit mais non, c'est pas vrai. Donc là, elle a craché le morceau.
Il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que les nanotechnologies, c'est pas un projet scientifique. C'est un projet politique et philosophique. Parce que en République, en démocratie, et depuis, je crois, une centaine d'années, tout citoyen est réputé compétent pour les affaires de la cité. Si les gens s'estiment pas compétents, il faut qu'ils rendent leur carte d'électeur. Si les nanotechnologies étaient juste un projet scientifique, ça me regarderait pas beaucoup. Enfin, ça pourrait éventuellement piquer ma curiosité, comme je m'intéresse à l'astronomie ou aux insectes. En tant que co-sociétaire de la société, j'aurais rien à dire. Mais là, on a quelque chose à dire, et on est sommé, on doit tous dire quelque chose sur les nanotechnologies, comme nous avons tous quelque chose à dire sur les OGM ou sur le nucléaire.
Voilà, à suivre, merci à tous. C'était un reportage d'Antoine Chao. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Christophe Papon. Yann Chouquet et Antoine Chao ont réalisé cette émission avec Raphaël Moutarde au montage, assisté de Pascal Pascariello. Et le répondeur, c'est Christophe Imbert. Mais le numéro, c'est le 01 56 40 37 37. On se retrouve lundi à 17h, lundi de Pentecôte à 17h pour la basse JC. Je vous laisse pour les infos avec Bruno Duvic. Salut.